I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. C'est Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve pour la dernière émission de cette saison 5 pour discuter d'un millésime de cinéma avec un invité. Ce mois-ci, mon invité est journaliste cinéma et série. Il officie à la rédaction d'Allociné depuis près de 15 ans. Vous avez pu le voir dans les émissions Fanzone et No Spoil sur Twitch ou le croiser au Club 300. Il adore la scène de l'envol des vélos dans E.T., celle de la liqueur d'échalote dans Les Bronzés. Docteur Who, Audrey Hepburn et le PSG, cet homme décidément éclectique, c'est Maximilien Pierrette. Salut Max.
Salut, alors j'ai récupéré ce petit son pour faire ma bio sur Twitter parce que je pense que c'est assez parfaitement fait. Ouais. C'est un bon résumé. J'aime beaucoup ce résumé sur moi-même. Je me suis reconnu dans ce
Audrey Hepburn et le PSG finalement, est-ce que c'est pas...
Qui se sont rarement croisés effectivement, mais il y a peut-être un truc comme ça de style, de grâce, de côté imprévisible. En même temps, Audrey Hepburn aimait beaucoup Paris.
Il y a peut-être une photo d'elle au parc, on ne sait pas.
Je vais chercher cette photo tout de suite parce que ce sera ma photo de profil Twitter si jamais je la trouve.
Ce mois-ci, pour cette dernière avant les vacances d'été, donc on s'en va se balader avec Maximilien dans un millésime galvanisant, flamboyant, généreux et culte, campé au début des 80s, une année de grands acteurs, de rôles à contre-emploi et de la naissance de vraies stars du cinéma, une année paradoxale aussi, autant pop, sexy et coloré que sombre, baroque et sanglante. Bref, aujourd'hui, on parle de l'année 1983. De Michael Jackson, on écoutait ça et on dansait sur ça en 1983. Alors pourquoi avoir choisi cette année 83, Max?
Parce que c'est une année qui est assez finalement qui est assez proche de celle de ma naissance, parce que je suis né en 85, qui est une année déjà prise, donc forcément
oui,
c'est mais c'est une année où forcément son cinéma, j'ai grandi avec, même à rebours. Et je pense notamment en fait au Retour du Jedi qui est sorti en 83, donc qui fête ses 40 ans cette année, et qui, dans mes souvenirs, est vraiment le premier film qui m'a marqué quand j'étais petit. J'avais peut-être 5-6 ans quand je l'ai découvert.
Donc pourquoi en VHS, j'imagine.
En VHS, exactement. Cassette, ouais. Ouais, c'est ça. Mes parents l'avaient enregistré sur la 5 à l'époque de cette chaîne. Voilà, c'est là que tu vois en fait les gens des années 80, c'est qui connaît la 5.
Alors,
la
5, les jeunes auditeurs, la 5, qu'est-ce que c'était?
Qu'est-ce que c'était? C'était avant France 5 et avant Arte. Oui. Hein, c'était vraiment c'était une chaîne, donc notamment. Mes parents avaient enregistré le Retour du Jedi et je l'avais découvert. Fou, pourquoi ça. J'ai commencé par la fin de Star Wars, je ne sais pas. J'ai aussi commencé par Superman 2 au lieu de Superman 1, je ne sais pas. On m'appelle Memento dans le milieu, mais c'est un film qui m'a marqué énormément et je pense que, par extension, c'est l'un des films qui m'a donné envie de faire du cinéma. Alors, je ne savais pas encore à l'époque comment. Et donc, c'est un peu le film qui fait qu'aujourd'hui, je suis là.
Ça a planté la graine, quoi.
C'est exactement ça. C'est vraiment un film qui m'a marqué durablement. Et qui m'a donné envie de voir plus de films de divers genres, donc voilà, donc ça tombe bien que cette année soit encore dispo, parce que au moins c'est vraiment, on revient à la naissance de ma passion pour le cinéma,
à l'année fondatrice de Maximilien Pierrette. Voilà, vous l'avez appris ici. Formidable. Alors oui, 1983, tu l'as dit, c'est une année importante au cinéma bien sûr, mais c'est l'année aussi de l'attentat à la bombe de l'aéroport d'Orly, qui fera à l'époque 5 victimes, et de l'arrestation en Bolivie de Klaus Barbie, criminel de guerre nazi. L'année aussi du lancement en France du premier disque compact, le fameux CD, de l'invention du caméscope par Sony, et de la sortie au Japon de la Famicom, ancêtre de la console NES. Cette année-là, on disait au revoir à la série MASH, qui diffusait son dernier épisode devant plus de 125 millions de personnes. Yannick Noah remportait Roland Garros, et Michael Jackson effectuait pour la première fois son fameux Moonwalk. Mais 83, on l'a vu, c'est aussi et surtout du cinéma, et on est là pour ça avec Max. Cette année-là, le public se rue en salle donc pour voir Star Wars épisode 6, Le Retour du Jedi, Tootsie et Flashdance. Les Français faisaient un triomphe à Isabelle Adjani dans L'été meurtrier et à Belmondo dans Le Marginal, et riaient aux éclats devant Papy fait de la résistance. Pendant que Shohei Imamura remportait la Palme d'Or à Cannes pour la balade de Narayama, on découvrait L'étoffe des héros, Vidéodrome de Cronenberg, Le sens de la vie des Monty Python ou encore Christine, Dead Zone et Cujo, tous trois adaptés de Stephen King. Mais cette année-là, un acteur crève l'écran plus que les autres. Il est jeune, beau et magnétique, et en trois films et une poignée de mois, il va devenir une véritable star. Un statut qu'il transcende encore aujourd'hui dans des blockbusters qui ramènent dans les salles des millions de personnes à travers le monde. Cet homme au cœur de notre premier thème, c'est un certain Thomas Cruise Mapother 4, alias Tom Cruise. The Same, musique de Tangerine Dream qui est sur la bande originale de Risky Business. Alors on s'est laissé emporter hors micro, évidemment, on voulait déjà partie du film, ça. Mais on va en parler du film, on va parler de ce film Risky Business, puisqu'il fait partie en 83 des trois films avec Tom Cruise au casting, puisque Tom Cruise en 83 c'est donc Risky Business, mais également Outsiders, réalisé par Francis Ford Coppola, qui sort en mars 83 et qui est alors un film de bande avec un casting de futurs stars assez fou. Il y a Matt Dillon, il y a Patrick Swayze, il y a Ralph Macchio, Rob Love, Emilio Estevez et donc Cruise, un peu en rôle secondaire, on va en parler. Et puis il y a un autre film, L'Esprit d'équipe, Michael Chapman, qui sort en octobre, qui est une espèce d'un mix entre Flashdance avec du foot US et une ambiance un peu... moi j'y ai trouvé un peu un goût de Voyage au bout de l'enfer avec cette espèce d'histoire d'immigrés russes dans cette ville minière, etc., aux États-Unis, qui est à l'époque, en octobre 83, le premier film avec le nom de Cruise en tête d'affiche, alors que c'est un film plutôt insignifiant dans l'histoire. Et pourquoi Tom Cruise est en tête d'affiche en octobre 83 et pas en mars 83? C'est qu'au milieu, il y a un film qui va tout changer, qui est donc Risky Business de Paul Brickman, qui sort donc en août et qui va être le huitième succès du box-office américain cette année-là. Et un peu le film de la révélation de Tom Cruise. On est en 83, Tom Cruise a 21 ans. Qui était-il en 83, Tom Cruise?
Il y a deux façons de le voir, en fait. À l'époque, c'était à la fois un acteur débutant, parce que comme tu l'as dit, il avait 21 ans, il avait peu de films à son actif. Il avait peu de films à son actif. Et en même temps, quand tu regardes le casting de The Outsiders dont tu as parlé, c'était presque un vétéran, parce qu'il avait déjà fait, deux films, alors qu'il y en a, pour certains, c'était leur toute première expérience au cinéma. Mais voilà, ça restait quand même un débutant, vraiment un espoir, parce que tu voyais même dans son tout premier film qui s'appelait Un amour infini, où il avait un rôle très secondaire, les gens avaient commencé à remarquer ce gars-là, se dire ah ouais, quand même, il a quelque chose, et tu le ressens encore dans The Outsiders, alors qu'il a un rôle très très secondaire. Alors que, pourtant, l'affiche, c'est vraiment la bande, et tu revois que toute cette tête connue.
Ouais. Et en fait, Matt Dillon est la star, mais lui, il est
sur un rôle secondaire. Très secondaire, mais on le voit beaucoup parce qu'en fait, il a un petit rôle de nerveux et de bagarreur qui lui ressemble assez peu, même si il monte sur des voitures pour faire des saltos, donc tu lui dis « Ah, c'est déjà Tom Cruise à cette époque-là, faisait ses propres cascades ». Donc non, à l'époque, une valeur montante du cinéma hollywoodien.
Oui, parce qu'avant 83, en fait, il faut le rappeler, Tom Cruise n'a que trois petits rôles. Donc il commence sa carrière en 80, tu l'as dit, avec Un amour infini. Il fait Taps, qui est un film qui, pour le coup, où il joue un militaire qui fait une rébellion au sein de l'armée américaine, qui est un peu le film, on va en parler, qui va aussi le faire remarquer. Et American Teenagers, qui est un troisième film un peu plus méconnu, mais il fait juste trois films avant 83 et hop, il explose en 83. Il est vraiment au tout début de sa carrière, et tu le dis, pourtant il y a déjà quelque chose de différent par rapport à lui, parce que dans Outsiders de Coppola, il est quand même à côté de Matt Dillon, de Patrick Swayze, de plein d'acteurs qui vont plus tard tout défoncer, et pourtant On ne remarque pas que lui, mais il sort à chaque fois, c'est presque ça, vraiment,
en l'espace de 5 minutes, tu retiens bah, ce que je disais, il fait des saltos sur des voitures, il veut se bagarrer, c'est quelque chose de très étonnant. Je sais pas si à l'époque, parce que là nous maintenant on le voit en se disant, il y a Tom Cruise dans le film, enfin tu vois les premiers films de Tom Cruise et tu dis, t'attends qu'il revienne et puis tu remarques que par rapport à ses rôles suivants, c'est un peu différent. Mais je me dis, à l'époque, ils ont dû aussi se dire, mais c'est qui ce petit nerveux, puis ce côté là c'est que quand Francis Ford Coppola, qui est quand même déjà, il a déjà passé le parrain 2, le mec est comme, c'est comme une pointure,
il a déjà deux Palmes d'Or.
Non mais c'est ça, c'est quand il choisit ces acteurs là pour un film, tu te dis, vaut mieux avoir l'œil sur eux, parce que je pense qu'il se trompe quand même assez rarement.
Et c'est drôle parce que en 83 sort également Rusty James, donc encore avec Matt Dillon et encore de Coppola, film où Coppola voulait avoir Tom Cruise dans Rusty James, et Tom Cruise lui a dit non, désolé, je vais faire ce film-là, ce petit film qu'on appelle Risky Business, parce qu'on me promet le rôle principal, donc je vais y aller. Et Risky Business, qui va être le film de la révélation, hein, 63 millions de dollars pour un budget de 6 millions, donc c'est un très bon succès au box-office, est un film assez particulier, parce que moi je sais que je l'ai découvert là, cette année-là, je pensais l'avoir vu, mais on a tous cette scène, chers auditeurs, si vous vous souvenez, Risky Business, c'est cette scène où Tom Cruise danse
en slip dans
son salon avec des lunettes de soleil et une chemise rose, et il fait un peu il arrive en chaussettes, en glissant
comme ça dans l'encadrement de la porte,
donc il y a vraiment ce côté un peu iconique déjà, et moi j'avais vu quasiment que ça de Risky Business,
pareil,
et je me suis dit, tiens, je vais découvrir Risky Business, que c'est, et en fait ce film n'est pas du tout ça. C'est un film qui, pour vous donner un peu un contexte, c'est l'histoire d'un ado qui profite de l'absence de ses parents pour amener à la maison familiale une escort girl, qui est donc Rebecca de Mornay, qui va bouleverser sa vie et qui va faire basculer le film dans un... C'était un teen movie et ça va faire basculer le film dans une espèce de film érotico, thriller de policier polar. C'est très particulier.
Bah, c'est ce qu'on remarque vachement aussi dans les films de Tom Cruise en 83, surtout L'Esprit d'équipe et Risky Business, c'est qu'il y a... Il y a beaucoup plus d'érotisme que dans 90% de sa carrière qui suit. C'est-à-dire que si tu enlèves Eyes Wide Shut, les films de Tom Cruise, ce n'est pas des films quand même très portés sur le sexe. Et là, ouais, comme
il
n'est
pas très sexuel. Enfin, il est pas très... c'est Tom Cruise est évidemment une icône sexy et c'est quelqu'un de très beau.
Les sexes sont beaucoup
pas
de...
trop sexualisés.
Bah, c'est ça, en fait, il y a beaucoup d'ellipses, il y a beaucoup de fondus enchaînés sur les scènes de sexe. Mais là, ça l'est beaucoup, c'est beaucoup plus, j'allais dire cru. Quand même pas à ce niveau-là, mais c'est sûr que par rapport à sa carrière, ça l'est un peu.
Bah, t'as mais quand même une scène où il est dans son lit en train de se masturber, littéralement.
Oui.
Enfin, moi j'étais là, genre.
Ah oui, d'accord. Exactement. Tu dis, en fait, on a perdu ce Tom Cruise. En
et
fait,
Rebecca de Mornay complètement nue.
Oui, aussi, non, mais c'est ça, voilà, qui elle a moins percé que lui. Peut-être que dans les années 90.
Ah, Runaway Train, quand même. Runaway Train.
Ouais, même dans les Trousseaux, les Trois Mousquetaires de Disney, c'était elle, Milady, même pour les gens qui l'ont vu. Mais là, comme tu dis, en fait, Risky Business, ça prouve à quel point le film a été important. C'est qu'on connaît au moins cette scène qui fait passer le film pour une espèce de comédie teen un peu potache. C'est un peu des films
des tonneaux de ça, tu vois,
des films genre à ce que faisait John Hughes, où t'avais toujours des petits apartés musiques, un peu musicaux, dansants, chantés. Tu te dis, c'est un film comme ça, c'est genre vraiment
Sixteen Candles ou Breakfast Club ou des
choses
comme ça.
Ouais, ou même genre Ferris Bueller, ça pourrait être Risky Business pourrait être une version un peu dark et un peu genre amorale de Ferris Bueller. Donc c'est un film très étonnant parce que sa réputation s'est construite sur cette scène. Qui en fait est le moment le plus léger et le plus presque consensuel du film.
Parce qu'après ça bascule, sa maison familiale devient un bordel avec des prostituées qui font passer tout le voisinage pour faire gagner de l'argent à Tom Cruise et Rebecca de Mornay. Il y a Joe Pantoliano formidable en méchant, en mafieux ou je sais pas quoi.
Ce qui l'a souvent collé à la peau ensuite.
Mais génial de voir Joe Pantoliano dedans. Et oui, on en parlait hors micro, mais c'est un film qui, au début, ça commence en American Pie et ça bascule en Michael Mann très vite.
Mais bien sûr.
Et cette scène de, on va faire l'amour dans le train, on attend que tout le monde parte du train pour faire l'amour librement. Et t'es là, avec cette espèce de scène crépusculaire de New York qui se réveille. C'est très, très, très particulier. Et c'est un film c'est un choix risqué pour Tom Cruise, quand même, à l'époque, de se dire, je vais faire ce film où... comme tu l'as dit, il y a des scènes où il est mis en danger, quoi. Il est nu, il est...
Potentiellement, c'est
qu'on... Ça peut le griller, tu vois.
J'y ai pensé maintenant quand t'en parlais, mais en fait, le côté Risky Business, c'est presque méta, en fait. C'était vraiment... Bah, ce que je fais en fait est risqué parce que c'est le genre de film, on sait qu'il y a beaucoup d'acteurs à qui c'est arrivé. Soit tu décolles vraiment, soit tu te brûles les ailes et, ouais. Et soit ce rôle-là, ce genre de rôle te colle à la peau. Et bah, évidemment, le grand public veut pas forcément de toi, les grands studios veulent pas forcément de toi.
Ouais. C'est sulfureux, ouais, quoi. Coup de ouais, non, comment t'expliquerais du coup, malgré ça, le succès de Risky Business? Pourquoi ce film a marché? Est-ce que c'est pas aussi grâce à ça? Est-ce que c'est pas.
Je pense aussi.
En fait, oh là là, il faut aller voir ce film parce que ouais. Dedans, il y a Tom Cruise. Qui est super sexy, et t'as Rebecca De Mornay qui est super sexy, et c'est le film un peu interdit.
Bah, c'est
où,
ça.
En fait, moi je suis un ado de 16-17 ans, et oh là là, je veux voir des
choses. Je pense que c'est le film que tu pouvais faire passer pour ouais, une petite comédie sympa, un petit teen movie, genre tes parents en fait n'y voient que du feu s'ils n'ont pas vu le film.
Oh, la roublardise.
Ouais, c'est ça, tu te dis, oh, regarde, il y a un moment, il y a une scène rigolote où il glisse en chaussettes et il fait du playback, il est en slip. Tu dis, bah oui, on en a vu, enfin, on a vu des comédies beaucoup plus grasses que ça, bon, ça va, c'est pas méchant, sauf que quand tu découvres le cœur du film. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être ça le succès du film, au-delà de l'aura de Tom Cruise, qui va, parce que là, plus encore qu'avant, ouais. il crève l'écran, vraiment, il porte tout le film sur ses épaules.
Mais c'est vrai qu'il est sur chaque scène. Quand
même. Ouais, c'est ça, et vraiment, c'était le test ultime, en fait, de voir s'il pouvait porter ce genre de film sur ses épaules, avec un, comme tu l'as dit, un rôle pas si facile que ça. Donc je pense que ouais, le côté ouais, un petit peu irrévérencieux.
Un peu racoleur.
Ouais, c'est ça, un petit peu ça, irrévérencieux, en fait, c'est, tu te dis, je vais voir ce film-là, mais peut-être que... tant que mes parents savent pas ce que c'est, en fait, je vais en profiter.
T'as un peu ce côté fantasme d'adolescent où en fait j'adorerais les mecs disent bah tiens j'adorerais être Tom Cruise qui elle a déjà c'est un peu un côté maman j'ai raté l'avion où t'as ce côté j'ai la maison des parents pour moi mais sauf que là je suis pas Kevin McAllister, j'ai pas 10 ans, j'en ai 16 ou 17.
Mais tu sais quand je parle de la scène où il glisse en slip, en fait j'ai la même image que quand Kevin McAllister saute sur le lit avec les popcorn quand ses parents ont disparu, c'est vraiment le même truc et c'est peut-être ce qui marche aussi, peut-être que les adultes aussi ont aimé le film parce qu'il y a un côté satire sociale finalement en fait sur le rêve américain, la réussite qui passe par des biais un peu détournés et un petit peu amoraux.
Mais c'est vrai que c'est comme on l'a dit, c'est même très amoral. Rebecca De Mornay est formidable, mais ça, il y a une image de la femme qui est quand même assez hideuse. Enfin,
on est en 83.
Il y a quand même, ouais, comme on l'a dit, il y a quand même du proxénétisme. Et puis tout ça, c'est fait de manière très naïve et très légère et anormalement légère. Enfin, il y a vraiment, voilà, c'est assez particulier.
Après, faut se dire aussi que la seule personne à avoir vraiment explosé grâce à ce film, c'est Tom Cruise, le réalisateur. Moi, je vais aller vérifier Paul Brickman.
Oui, Paul Brickman. Ouais.
Donc peut-être qu'il y a ça aussi. Peut-être que en fait, la réussite du film, elle tient peut-être plus à son ton, à sa musique aussi, et à ses acteurs, que à son réalisateur qui n'avait pas vraiment de point de vue là-dessus.
Mais c'est vrai qu'après, pour peut-être finir sur Risky Business, il y a quand même ce côté, on l'a dit au début, d'objet un peu bizarre dans Risky Business, qui est un objet vraiment à la croisée des genres, à la fois teen movie, à la fois film érotique, avec des très jeunes acteurs, à la fois avec ce sous-texte proxénétisme, quelque chose de très sombre qui est esquissé comme ça, et des scènes un peu sorties de nulle part à la Michael Mann, avec Tangerine, la musique de Tangerine Dream. Pourquoi prendre Tangerine Dream pour faire cette musique d'un film teen movie qui apparemment est juste un film teen movie?
Mais bien sûr.
Ça fait basculer le film dans une autre sphère, je trouve.
Ouais, c'est quand on te dit c'est un film des années 80, du coup ça crée des attentes chez toi, et en fait quand tu le vois, tu te dis, alors là oui, je vois les années 80, notamment dans le ton, dans les musiques, dans les looks, mais sinon c'est pas... Tu retrouves pas tous les codes du cinéma des années 80 que tu connais aujourd'hui, en fait, que tu peux appliquer sur plein d'autres films. Bon, c'est un film vraiment, vraiment étonnant. Vraiment, dont ce que tu connais, finalement, c'est presque trompeur, ce que tu retiens du film.
Mais entre Coppola, Risky Business, l'industrie hollywoodienne lui-même, enfin, à ton avis, qui est-ce qui a inventé, créé Tom Cruise véritablement? Est-ce que c'est Risky Business, ce succès tout seul, ou est-ce que sa création vient d'ailleurs?
Bah, je pense qu'il s'est un peu inventé tout seul. En tout cas, c'est l'histoire qu'il raconte. C'est vrai qu'il a toujours parlé du fait que c'était un outsider, justement, ça tombe bien avec le film de Coppola, mais qu'il était dyslexique, il était en échec scolaire, il a vécu avec un père violent. Ouais. Donc en fait, le cinéma, c'est un peu ce qui lui a permis de devenir quelqu'un, ce qu'il a toujours répété. Et d'ailleurs, quand tu regardes ses premiers films, et c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans la carrière de Tom Cruise, c'est que il y a différentes périodes en fait où tu peux lire sa vie, et le début des années 80, donc ses premiers films, c'est vraiment, il joue des marginaux à chaque fois, même dans Top Gun, qui est comme le film qui l'a fait décoller au sens propre comme au sens figuré, Il joue un peu un rebelle, en fait. C'est clair que quelqu'un qui rentre pas dans le moule, c'est ce que je pense qu'il a dû entendre toute sa vie étant ado. C'est que, bah non, mais t'es pas comme les autres. C'est que t'es pas bon à l'école, tu réussiras pas. Et en fait, bah, il s'est battu pour le faire. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans le film L'Esprit d'équipe, qui, comme tu disais, est assez insignifiant dans sa carrière. D'ailleurs, c'est un des films qu'on oublie un peu. Parce
ne raconte rien du tout. Hein. Genre, j'étais là, genre, mais quand est-ce que le film commence?
Là, c'est un film que t'as vu mille fois. On peut même dire que c'est inspiré de Rocky dans le côté genre prolo et qui en même temps s'en sort par le sport.
Oui, L'Esprit d'équipe, c'est donc ce troisième film dont tout le monde a oublié le nom, l'histoire, qui raconte l'histoire de Tom Cruise, qui est un joueur de football américain dans une petite ville minière au fin fond des États-Unis, qui a la chance d'aller dans l'université un peu célèbre.
Ouais.
Et un peu comme Flashdance, il attend un coup de fil, mais le film ne raconte rien du tout.
Non, et puis en plus, lui-même est un peu un rebelle, donc forcément, il y a ce moment très attendu où ses plans vont tomber à l'eau et qu'il va devoir se remettre en question et regagner sa place dans l'équipe. Donc Tom Cruise, à cette époque-là, ouais, c'est un peu un outsider, et je pense qu'il a été évidemment aidé, comme on disait, au moment où Coppola te met le pied à l'étrier, tu sais que si tu fais pas n'importe quoi derrière, c'est que tu as quand même des bonnes chances vraiment de percer. Puis Risky Business l'a aidé, mais j'ai l'impression que Tom Cruise s'est beaucoup construit tout seul avec l'aide des réalisateurs qui ont vu le potentiel qu'il avait en lui et que lui vraiment a su transcender.
Alors moi j'avais entendu une anecdote sur Taps, qui est donc le film qui est sorti en 81, deux années plus tôt, où il joue ce soldat qui se rebelle, qui fait partie d'un gang de soldats, enfin d'un groupe de soldats qui se rebelle contre l'institution et qui va tenir comme ça un campement américain contre, voilà. Et je me souviens qu'à l'audition, enfin il y a une anecdote qui dit qu'à l'audition de ce film-là, le producteur du film voit un Tom Cruise qui est tellement habité dans son rôle de militaire, tellement consciencieux dans ses gestes, dans sa volonté d'aider ses camarades qui auditionnent comme lui, qu'il le dit, en fait toi tu fais pas un rôle secondaire, tu vas aller prendre ce rôle plus important et je vais gonfler ton rôle. Et en fait ça pose la question de savoir est-ce que finalement le film qui l'a révélé en tout cas au cœur d'Hollywood avant le public, c'était pas Taps et non pas Risky Business. Et peut-être comme tu l'as dit, révélation, elle vient de lui. C'est que lui, il s'est dit, en fait, je vais m'investir dans tout ce que je fais. Et en fait, ça va se voir et ça a été vu par les bonnes personnes, Coppola, Stanley Jaffe, etc.
Ouais, voilà. Et mais après Ridley Scott, Tony Scott, tous ces gens-là, les grands producteurs hollywoodiens, donc il avait forcément quelque chose. Et même quand tu vois aujourd'hui que à la fois quand il fait ses propres cascades et qu'il risque la mort dans chaque Mission Impossible, et même quand tu le vois en promo, en fait, cet investissement, il était là dès le début. C'est juste que maintenant, il va avec son statut de mégastar et ce qu'il en fait. Mais je pense que oui, en fait, dès le début, il s'est dit... Comme en fait, il a beaucoup rappelé à quel point le cinéma l'avait sauvé. C'est vraiment le thème qu'il emploie. Il s'est jeté dedans à corps perdu. Et il se trouve que il avait du talent pour ça et qu'il avait une intensité qui a marqué très vite.
Et c'est vrai qu'après Risky Business, il se fait quand même un début de carrière très très fort parce que... il a tourné avec Coppola. Après Risky Business, il va tourner avec Ridley Scott dans Legend. Il va tourner avec Martin Scorsese dans La Couleur de l'Argent. Il va tourner avec Tony Scott dans Top Gun. Et en fait, tu te rends compte que tous les films, après avec Oliver Stone, tous les films qu'il va faire quasiment dans les 10 prochaines années, ça va être que avec des réalisateurs extrêmement majeurs, extrêmement importants. Et c'est quasiment que un all-in de grands noms. Et en fait, dès sa vingtaine, il était déjà à tourner avec les plus grands. Ce qu'il a aussi, je pense, cimenté.
Même devant la caméra, c'est que quand tu vois après Top Gun, alors tu laisses Cocktail de côté parce que c'est vrai qu'il entre moins là-dedans, mais l'après Top Gun, c'est vraiment Tom Cruise qui cherche un peu l'approbation de ses pairs, c'est-à-dire les plus grands réalisateurs, comme tu disais, Scorsese, et en même temps, il tourne chez Scorsese avec Paul Newman.
Ouais.
Il tourne dans La Firme au début des années 90 avec Gene Hackman, après il croise Robert Duvall dans Jour de tonnerre de Tony Scott. Il y a ça aussi, c'est qu'en fait, il essaye de se faire adouber par l'industrie. Il fait le film Né un 4 juillet de Oliver Stone. Là, c'est pour se faire reconnaître par l'Académie des Oscars. Où,
et il a sa nomination. Voilà. Voilà.
Donc non, tu sens qu'il y a un truc, en fait, la carrière de Tom Cruise, moi, je la trouve fascinante vraiment de bout en bout. Parce que tu peux à chaque fois, en fait, tu lis plein de choses sur Tom Cruise à travers ses films, à travers ses choix. Et là, en fait, tout part de ses tout premiers rôles. Et son investissement dans Risky Business finalement a payé. C'était un rôle hyper, c'était vraiment hyper risqué.
Tu fixerais vraiment la naissance de la star Tom Cruise à Risky Business en 83 ou alors à Top Gun en 86?
Ses premiers très gros succès, c'est Legend et surtout Top Gun. Mais je pense qu'en fait, il n'y a pas de Top Gun s'il n'y a pas eu Risky Business avant. Donc en fait, la naissance, c'est-à-dire qu'en fait, il naît avec Risky Business et on va dire qu'il fait ses premiers pas et il commence à marcher et à courir dans Legend et surtout dans Top Gun. Donc pour moi, oui, en fait, c'est s'il n'y avait pas eu Risky Business, je ne suis pas sûr qu'il aurait autant attiré l'attention des studios sur lui. Et comme tu disais, en plus, ça a été un succès inattendu, Risky Business. Il y a ça aussi qui joue, malheureusement.
Un peu particulier. Alors là, on est 40 ans après. On l'a dit hors micro, c'est très étrange. On était en train de préparer l'émission avec, sur 83 et Tom Cruise. Ouais. Et la même semaine et le même mois, on est en train tous les deux de travailler sur Mission Impossible 7 qui va arriver...
Oui, d'ailleurs,
semaines,
83, qui est l'année de naissance de Rebecca Ferguson. Oui, voilà. Que j'aime citer dès que j'en ai l'occasion, donc c'est rigolo, mais voilà. Bah non, mais c'est ça, c'est que quand tu regardes sa carrière, elle est dingue. Enfin, quand tu disais, quand tu regardes son CV et les réalisateurs avec qui il a tourné, même si depuis, on va dire, depuis 2010, allez. C'est pas forcément des yes men, parce que c'est des mecs qui sont quand même assez doués, mais c'est un peu sa garde rapprochée. C'est
un peu des
Christopher
déçus,
Macquarie, Doug Liman, Joseph Kosinski, qui sont des gens talentueux. Mais c'est pas des Michael Mann, c'est pas des Spielberg, c'est
pas.
Il
se met pas
des
trop
Coppola.
En danger, quoi.
Non, avant c'était ça, en fait. À l'époque où il était vraiment, on va dire, la période entre 1996, donc Mission Impossible, et 2008, Tenace sous les Tropiques, qui est peut-être sa dernière grosse prise de risque en tant qu'acteur, par sur le plan physique. Franchement, c'est sa meilleure période. Ouais. Il tourne avec les plus grands, il se met en danger dans Magnolia, il joue un méchant dans Collateral de Michael Mann, il fait deux super films de SF avec Spielberg parce qu'ils se sont vraiment trouvés sur ces deux projets-là. En fait, c'est qu'il pouvait faire appel à n'importe qui pour que cette personne un peu le mette en danger, alors que maintenant, en fait, il fait appel à des gens qu'il connaît pour qu'il l'aide à façonner l'image qu'il veut façonner de lui-même.
Un peu de l'anomalie aussi, parce que ça reste une anomalie aujourd'hui, de 60 ans. De faire Tom Cruise, on l'a vu l'année dernière avec Top Gun, Maverick, faire 1,2 milliard.
Ah, j'y croyais pas,
sur Top Gun. Ouais. Là, il va encore faire une pelletée de moula avec Mission Impossible.
Ouais, j'aimerais bien qu'il dépasse enfin 1 milliard avec Mission Impossible.
C'est un peu une anomalie quand tu revois la logique générale de l'industrie américaine. Lui, c'est un peu une anomalie de Tom Cruise de dire, en fait, il y a que lui qui peut lever comme ça 1 milliard juste sur sa tête.
Est-ce que tu pourrais te dire, maintenant, comme c'est les marques qui fonctionnent, c'est Mission Impossible qui va marcher et pas Tom Cruise. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte avec Top Gun que non, en fait, Tom Cruise, il avait encore un énorme capital.
Justement, pour clore ce premier thème de l'émission, est-ce que là, on a parlé il a 60 ans, ça fait 10 ans qu'il est un peu sur cette garde rapprochée, où c'est peut-être un petit peu moins intéressant en termes de collaborateur, de réalisateur. Il a 60 piges, il a encore, normalement, si tout va bien, un bon bout de chemin devant lui pour faire plein de choses.
Ouais.
T'aimerais le voir partir où, s'il pouvait un peu sortir de sa zone de confort, Tom Cruise? T'aimerais voir Tom Cruise où, dans cette nouvelle...
J'aimerais revoir Tom Cruise chez Steven Spielberg, parce qu'on a vu, ils se sont croisés récemment, genre tout le marathon
des Oscars.
Et voilà, tu sens qu'on sait que ça s'est pas très bien terminé entre eux sur la guerre des mondes, parce que la promo était un petit peu compliquée entre Tom Cruise, surtout, qui était un peu à fond dans la scientologie, Katie Holmes, et Spielberg, qui apparemment en interview regardait ses pompes au bout d'un moment. Donc là, tu sens qu'ils se sont peut-être un peu réconciliés, et tu te dis, est-ce que c'est pas le moment de clore votre trilogie de SF? Donc ça, j'aimerais beaucoup le revoir chez Michael Mann, même voir Michael Mann faire un Mission Impossible si jamais la saga continue au-delà du 8, parce que c'est un peu flou ce qu'il attend peut-être. Mais tu sens qu'on n'était pas loin avec Top Gun, et finalement non, c'est les rôles de mentor. C'est les rôles que Paul Newman avait face à lui, que Gene Hackman avait face à lui, que Robert Duvall avait face à lui, par exemple, à l'époque.
Un vieux Tom Cruise, un peu plus, effectivement, sur le recul.
Qui fait profiter son expérience. Et il y a un peu de ça dans Top Gun, sauf qu'au final, c'est lui qui, à la fin, est le héros de l'histoire. Donc tu sens que...
Il n'est pas encore prêt à laisser sa place.
Il s'accroche encore un petit peu. C'est que c'est un peu difficile. Mais c'est peut-être au moment où il aura fini les Missions Impossibles. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment les films où, à chaque fois, il défie la mort au moins 4 fois par film. Moi, j'aimerais bien vraiment qu'il aille vers des réalisateurs qui vont un peu le sortir de sa zone de confort et le faire aller vers l'étape suivante de la carrière d'une star de son âge. C'est-à-dire que tu n'es plus sur le devant de la scène comme avant, mais tu es un mentor, et en même temps,
un autre chapitre de sa carrière.
Ouais, et peut-être que j'aimerais bien le voir aller aux Oscars aussi, parce que tu sais que, Robin Williams, qui a eu un Oscar pour Will Hunting en jouant un rôle de mentor et en plus un rôle sérieux, tu dis Tom Cruise. En plus, on sait que les Oscars, c'est un storytelling, c'est pas forcément le meilleur acteur qui a récompensé, c'est la meilleure campagne qui a récompensé. Mais
histoire,
si tu trouves un bon rôle comme ça, un truc émouvant, qui en plus joue sur sa propre histoire, t'as un boulevard pour qu'il soit enfin récompensé. Donc
Spielberg, Michael Mann, les Oscars peut-être, et surtout peut-être un chapitre différent dans sa carrière d'acteur, un rôle de mentor.
Il faudrait.
En tout cas, les horizons sont beaux et voilà qui conclut parfaitement ce premier thème autour de Risky Business et de cette année 83 révélation Tom Cruise. On s'en va sans plus tarder vers le second thème de notre émission.
Quand les nuits sont trop longues, quand le sang tourne en rond, dans les vapeurs des sens, il y a des rêves qui s'embrument, des envies qui se balancent et des moteurs qui fument.
Charles-Élie Couture, Les nuits sont trop longues, issu de la bande originale du film Ciao Pantin, qui va être au cœur de notre second thème, puisqu'en 83, outre Tom Cruise, c'est aussi l'année d'une autre révélation différente, française, puisque c'est celle de Coluche. Michel Colucci, qui en 83 sort Banzai de Claude Zidi, La femme de mon pote de Blair Tamblier et Ciao Pantin de Claude Berry. Trois films qui vont le cimenter comme un acteur majeur de ces années 80 dans le public français, puisque mine de rien, si on inclut 2h moins le quart avant Jésus-Christ qui est sorti fin 82, et ben, en 12-14 mois, Coluche, c'est quand même 14 millions de spectateurs dans les salles en un an et demi, juste sur son nom, donc ça c'est assez important. Et en 83, Coluche, il a déjà fait un succès fou au théâtre, il a à la télévision, il a déjà eu sa candidature avortée à la présidentielle de 81. Donc c'est déjà un véritable phénomène national qui va se cristalliser autour de Ciao Pantin et de Claude Berry. Quelle est ton histoire, toi, particulière avec Coluche? Quel est ton rapport avec l'acteur, l'homme?
Bah, l'acteur, je me rends compte qu'en fait que je l'ai découvert assez tard. Bizarrement, moi j'ai beaucoup plus connu d'abord tous ces sketchs à la télé, tous ces sketchs même sur scène, dans des CD ou à la radio en fait, mais le côté acteur, c'est j'ai découvert les films un peu plus tard. Je ne saurais même pas te dire quand, en fait, je ne saurais même pas dire quel est le premier film que j'ai vu de lui, mais en fait, à l'époque, quand j'ai découvert des films de Coluche à la télé, bah, je savais qui c'était, parce qu'il y avait Les Restos du Cœur, bon, bah, évidemment, enfin, on savait aussi que son décès en 86,
forcément, moi,
en fait, moi quand j'ai connu Coluche, il était déjà décédé, donc forcément... Oui. Bah, tu sais, tu connais déjà la fin, tu sais déjà en fait tout ce qu'il a fait, tu sais déjà pourquoi les gens l'aimaient autant. En fait, tu vois, presque chaque année, il y avait toujours genre, un prime spécial sur Coluche. Donc, moi, je l'ai vraiment connu par ce biais-là, avant de découvrir ses films avec, bah, avec De Funès, les films de Claude Zidi qu'il a fait. Et Ciao Pantin, j'ai découvert assez très très récemment pour préparer cette émission, pour être tout à fait honnête.
Et alors, comment s'est passée cette découverte de Ciao Pantin?
J'ai été à la fois surpris et pas tant que ça, parce que j'avais tellement entendu parler du film que forcément, en fait, c'est plus sa noirceur et le côté un peu vigilante, justicier de la fin du film qui m'a étonné.
Tu pourrais raconter l'histoire pour les auditeurs qui n'auraient pas vu Ciao Pantin?
C'est l'histoire d'un pompiste qui s'appelle Lambert, qui du coup qui recueille un soir un jeune homme qui est joué par Richard Anconina, qui mouille dans des trafics de drogue, et donc voilà, qui va vouloir le protéger. Sauf que les employeurs de ce petit dealer en fait vont le retrouver, vont réussir à le tuer, et le personnage joué par Coluche en fait va vouloir le venger. Ouais. Donc ouais, mais quand tu parlais de révélation pour Coluche, je trouve que c'est assez vrai, parce que en 83, comme tu dis, on le connaissait déjà, mais en tant que acteur
amuseur
sérieux,
public, et
voilà,
il y avait déjà quand même ce sous-texte politique où il a fait sa campagne, ouais. Il avait quand même cette double casquette de je vous fais rire mais je vous dis des conneries, ouais, mais je vais dire quelques vérités, parce que en 80 par exemple c'est Mitterrand qui l'énerve, etc., et il n'ose pas rentrer dans l'art au président de la République à l'époque.
Même tous ces sketchs en fait c'est vraiment c'est très satirique, c'est très acide sur la société française de l'époque, et là avec La femme de mon pote de Bertrand Blier et surtout de Ciao Pantin, en fait on découvre son talent d'acteur, on se dit c'est pas juste un clown.
Cette double révélation, Femme de mon pote et Ciao Pantin, surtout Ciao Pantin, puisque c'est à la fois un succès et populaire qui fait des millions d'entrées, et critique, puisque le film va avoir 5 nominations au César et 2 récompenses, dont une pour Coluche en meilleur acteur. Et surtout, ce film-là va créer une expression qui est assez populaire, qui est faire son Ciao Pantin, voilà. Qui est cette expression quand un acteur comique fait un rôle dramatique. Selon toi, il y a vraiment un avant et un après de Ciao Pantin dans le cinéma français, puisque là, on parle de cinéma français. Est-ce que Coluche a libéré, en quelque part, les acteurs comiques d'un carcan?
Je ne sais pas s'il a libéré les acteurs comiques. J'ai l'impression qu'il a surtout libéré les producteurs, qui se sont dit ah tu peux
faire comme Coluche,
ouais, tu peux sortir quelqu'un d'une case. En fait, c'est en plus comme tu disais, il a eu un César. Ce qui, voilà, généralement maintenant, le côté un acteur, on dit un acteur fait son tchao pantin, c'est presque cet acteur veut un César. Vraiment, il a créé ce truc-là. Donc je pense qu'en fait, les producteurs ont un peu ouvert les yeux en se disant ah, mais peut-être que finalement, cet acteur rigolo peut nous émouvoir, peut vraiment faire autre chose que nous faire et le faire très bien. C'est-à-dire que Cadmerade dans Je vais bien, ne t'en fais pas, en 2006, qui a un César d'ailleurs aussi.
Oui, c'est vrai.
C'est un peu son tchao pantin. Michael Youn qui fait le film Héros, pareil à la même époque, c'est un peu son tchao pantin sans le César derrière.
Indigène, Jamel Debbouze.
Exactement,
une interprétation aussi à Cannes.
Même je me demande si par extension, tu as des acteurs comme Michel Blanc qui, tu vois, à l'époque où sort tchao pantin, tu vois, Monsieur Hir, peut-être que ça découle de cette idée de on n'est pas obligé de lui faire jouer des Jean-Claude Duss tout le temps. Parce que vraiment, à ce moment-là, c'était la petite moustache, le loser sympathique. Après, Monsieur Hir, c'est un autre délire. Et en plus, quand tu vois la suite de sa carrière, ça l'a peut-être libéré aussi. Donc, je pense que Coluche, ouais, a peut-être brisé une espèce de tabou, j'ai envie de dire, le côté tu sais pas, tu peux pas.
Mais du côté des producteurs, pas tellement du côté des acteurs qui, eux, demandaient que ça, véritablement, je pense.
Oui, j'imagine. Alors, l'ironie de l'histoire, c'est que Coluche, finalement, ne voulait pas vraiment faire ce rôle-là quand il lui a été proposé par Claude Berry. Donc, s'adapter d'un roman, Claude Berry en a acquis les droits. Et Coluche, il n'était pas très, très motivé parce que c'est un rôle quand même qui est très noir. Et de ce qu'il se dit, il était un peu complexé, justement, à l'époque, par rapport à ce genre de projet. Et il ne se sentait pas de faire un personnage, en fait, sur lequel il n'aurait pas de contrôle. Parce qu'avant, quand il fait Banzai de Claude Zidi, on est dans du Coluche.
Il gère les vannes et il n'y a pas de souci.
Il fait des vannes, il y a sa gouaille qui rend une réplique beaucoup plus drôle. Là, il est comme un poisson dans l'eau. Alors que justement, Tchao Pantin, c'est une énorme prise de risque. Et c'est notamment le fait qu'il ils doivent de l'argent aux impôts qui l'a convaincu qu'il fallait accepter.
Toujours on remet l'argent. Ça. Oui, il est effectivement dans une période compliquée puisque il y a quelques années, il a enterré son ami Patrick Devers, dont il a été... peut-être à pas ricocher l'une des causes de son suicide.
C'est un peu
ça. C'est assez dramatique. Et moi, c'est marrant parce que tu parlais de ta découverte de Tchao Pantin. Moi, pareil, j'ai vu le film pour l'émission. Et c'est vrai que j'ai trouvé le film intéressant, mais qui a quand même, je trouve, mal vieilli sur pas mal de choses, notamment Anne Soral qui ne sert à rien. Et le rôle de Coluche qui est assez cousu de fil blanc. Mais ça m'a fait beaucoup penser à Taxi Driver. T'as vraiment un côté de personnage comme ça, donc déjà alcoolique, dépressif, comme ça, très traumatisé, qui vit la nuit. Donc t'as vraiment une esthétique très, j'ai noté, très néon morose avec la photographie de Bruno Mitten, avec vraiment ce garage dans le 18e et à l'aube qui, avec ses néons total, etc. Mais oui, t'as un petit mood de Taxi Driver particulier.
Ouais, il y a un peu ça. Et en fait, c'est
la musique de couture. Ouais.
Quand tu vois en plus ces films sortis cette année-là, en fait, faut vraiment avoir l'ordre de sortie en tête parce que tu passes vraiment du plus léger au plus sombre. C'est-à-dire que Banzai, c'est la grosse comédie. Et encore, Banzai à l'époque, en fait, il était. Tu parlais de sa campagne un peu chaotique en 81.
Ouais.
Il en subit le contre-coup. En plus, il vient de se séparer de sa femme quand il fait Banzai, qui est pourtant un projet qui est du sur-mesure vraiment pour lui. Même ça, il a du mal en fait à réussir certains gags. Ensuite, La femme de mon pote, donc qui a été tournée après, qui sort après, et en fait, au début, ça va être un film pour Coluche, Miu Miu et Patrick Devers, et le scénario s'inspirait de leur histoire commune, à savoir que Coluche vivait à l'époque avec l'ex-compagne de Patrick Devers.
Ouais.
Et tu disais, est-ce que par ricochet, en fait, Coluche n'est pas responsable du suicide de Patrick Devers ? C'est la question qu'on se pose, surtout
Il lui a offert
une carabine avec laquelle il s'est suicidé.
Ouais, voilà, c'est
ce qui aurait joué, c'est le fait d'avoir vu sa compagne partir avec son ami. Donc, Coluche, d'ailleurs, encore une fois, ne voulait pas faire ce film-là, mais c'est son impresario Paul Lederman qui lui a dit que non, c'est Bertrand Blier, il faut quand même tourner avec, parce que c'est le mec qui a fait Les Valseuses, c'est quand même une icône dans le cinéma français, un peu à la fois populaire, mais très auteur. Et Miu Miu, elle, a refusé de le faire, elle a même coupé les ponts avec Coluche, elle a été remplacée par Isabelle Huppert, c'est Thierry Lhermitte qui reprend le rôle de Patrick Devers, et tu sens que Coluche est pas mal éteint dans le film, et en fait, c'est pas que le personnage qui était comme ça, c'était vraiment Coluche qui l'était.
Il était dans une période effectivement très dépressive, on
peut
dire.
Très dépressive, et vraiment où il s'est retrouvé à sombrer dans la drogue, et en fait, quand tu parles du personnage dans Le Chat au Pantin, qui vit la nuit, qui est dépressive, alcoolique, en fait, c'était
la même chose.
À part le costume et le look, et en plus le costume il le gardait tout le temps. Mm. En fait, c'était beaucoup Coluche à l'époque, et il y a beaucoup de plans de Coluche de dos parce que il était dans un état qui fait que tu pouvais pas trop le filmer.
Mais je crois qu'il dormait pas beaucoup.
Tu parlais de Taxi Driver, tu pourrais dire ah ouais l'acteur studio comme De Niro, mais non en fait non, c'est que Claude Berry en fait s'est servi de ça pour son film. Mais que Coluche était vraiment dans une très 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 mauvaise passe. Ce qui marche bien, c'est justement d'avoir Coluche dans ce
oui,
rôle-là. Moi,
voilà.
j'ai vu quelqu'un en fait qui une critique de quelqu'un que je connais qui disait Coluche à la fin, il fait un peu penser à Denis Ménochet. Et je me dis c'est vrai,
ouais, c'est vrai. Ouais,
et je me dis tu essaies que tu refais Chopin avec Denis Ménochet. Évidemment qu'il va être très bien, mais tu vas pas être surpris.
Ouais.
Alors que là, tu te dis ah mais oui, mais c'est Coluche, tu vois, comme on parlait de Tom Cruise.
C'est un film qui fonctionne sur le
ah, mais bien sûr.
Et c'est
pour ça aussi, on parlait de faire un son de Chao Pantin. C'est aussi vraiment le contre-emploi, c'est-à-dire que tu surprends les gens avec un acteur généralement comique qui joue un rôle très sérieux, très sombre, souvent même des fois un rôle de méchant et qui prend un peu tout le monde par surprise. Donc, Coluche en fait, ça a été le précurseur de ça.
Et justement, on l'a dit que c'était effectivement une année très compliquée qui aboutit donc finalement à des succès. Hein.
Oui, c'est ça.
Alors, Chao Pantin, le César, on l'a dit, 14 millions de spectateurs en un an et demi pour tous les films dont on a cité là. Donc, c'est assez ouf, 14 millions de spectateurs à l'époque. C'est quand même un Français sur quatre qui va voir un film avec Coluche. Donc, c'est pour vous donner la magnitude de son succès. Mais Coluche est dans une période extrêmement compliquée qui ne va pas aller en s'arrangeant puisque après 83, il va juste faire 5 films.
Oui.
Après 83, il fera Le Bon Roi d'Agobert de Dino Rizzi, La Vengeance du Serpent à Plumes de Claude Zidi et Le Roi du Gag encore de Claude Zidi, Sac de Nœuds de Balasco et enfin son dernier film, Le Fou de Guerre. Encore une fois de Dino Rizzi avant de décéder le 19 juin 86 d'un accident de la route. Donc mine de rien, Chao Pantin est quasiment à la fin de sa carrière.
Oui, et puis en fait tu regardes
beaucoup, tu vois,
quand on se demandait ce que ça avait changé Chao Pantin, pour lui pas tant que ça, parce que à part Le Fou de Guerre qui est comme un film beaucoup plus sérieux, le reste c'est que des grosses comédies poète.
Et il a pas encore pu, il a pas eu le temps de voir forcément le contre-coup de Chao Pantin, parce que le temps qu'il a eu le César c'était 84 et finalement il meurt en 86, donc sur sa table il avait plein de projets dans la veine de Chao Pantin, mais il est décédé en 86. Et
oui, je serais pas étonné comme on disait, ça a sûrement fait ouvert quelque chose dans l'esprit des producteurs, et j'imagine que plein de gens se sont dit surfons sur la vague de Chao Pantin et notamment son succès public. Et proposons-lui d'autres rôles sérieux parce que potentiellement on peut avoir des Césars. Et puis
il a ouvert une porte, quoi.
Ah oui, c'est sûr, il a vraiment ouvert une porte que d'autres n'avaient pas ouvert avant lui. Je pense à Louis de Funès qui avait joué dans L'aile ou la cuisse avec Coluche. Quand tu le lis, en fait, il a été approché pour des projets sérieux, mais lui aussi était hyper complexé. Il ne se trouvait pas bon acteur du tout de Funès. Et il n'a peut-être pas des impôts à payer comme Coluche sur Chao Pantin, ou il n'a pas d'un presse à eux qui l'a poussé, ce qui fait qu'il n'a jamais sauté le pas, alors que si ça se trouve, il aurait été absolument brillant.
Sans doute. Ouais. Là, on est 40 ans après Chao Pantin. Qu'est-ce qui reste de Coluche aujourd'hui, selon toi? Est-ce qu'il a peut-être des héritiers de Coluche?
Je vois pas beaucoup d'héritiers de Coluche. J'ai l'impression que Coluche, en fait, on en parle beaucoup avec nostalgie, surtout quand tu parles d'humour, ou le côté genre, ah mais à l'époque de Coluche, on pouvait dire ça, on pouvait faire ça, on pouvait être mordant. Là, c'est un peu, on a l'impression que Coluche est un peu un porte-étendard du on peut plus rien dire.
Ouais.
Donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'héritier de Coluche. On aurait pu citer François-Xavier de Maison puisqu'il a incarné Coluche au cinéma.
Pour le film de
Et c'est vrai qu'il a cette espèce de bonhomie, il a ce côté, cette façon de parler, cette gouaille un petit peu qui rappelle Coluche, mais dans le ton, dans la présence.
À la fois politique, à la fois incisif, corrosif, et en même temps très bien écrit, très drôle.
Et puis en même temps, tu vois des acteurs comme Omar Sy qui prennent la parole sur des sujets politiques, chaque fois c'est un shitstorm pas possible aussi. Donc je pense que c'est une place qui est difficile à prendre, la place de Coluche, parce que tu sens que ça ne...
Et personne ne veut la prendre, je pense.
Non, c'est ça. Je pense qu'il y a à la fois ça et à la fois les rares qui ont essayé, ça s'est mal passé pour eux. Donc non, Coluche, pour moi, il n'a pas d'héritier. Coluche, en fait, c'est vraiment une icône, en fait.
Un symbole.
Ouais, c'est ça, en fait, d'un humour soi-disant lointain, d'une époque où tu pouvais faire de l'humour et de la politique en même temps, et que c'était pas antinomique, et que tu étais un comique, mais tu pouvais aussi faire des rôles sérieux et être très bon et gagner un César. Ça, au moins, là, ça a changé là-dessus. C'est que son héritage, il est peut-être là. C'est-à-dire que quand Jean Dujardin fait un film comme Contre-enquête,
oui,
c'est un peu son Chao Pantin. Ouais, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de Chao Pantin, est-ce qu'il ne serait pas resté à faire des Brises de Nice, un Guy une fille, The Movie, ou des trucs comme ça?
Il n'aurait pas eu d'Oscar.
Non, voilà, exactement, voilà. C'est ça. Non, je pense que c'est ça. En fait, l'héritage de Coluche, il se situe un peu dans cette dans ces frontières un peu brouillées entre la comédie et le drame, même si tu vois qu'au César, encore aujourd'hui, bon...
C'est encore bien cloisonné.
Ouais, à part pour les seconds rôles. Il y a le second rôle, il y a toujours un côté, tiens, hop, ils nous ont fait rire, vas-y, donne ça, histoire de reconnaître les succès publics. Mais non, voilà, Coluche, il a quand même permis qu'on ait un regard un peu différent et qu'on mette un peu moins les acteurs dans des cases, même si il y a encore du chemin à faire.
Justement, pour clore ce second thème, toi, un acteur comique qui n'a pas de César et qui tu donnerais un César pour un rôle comique, par exemple.
J'aurais donné un César à Jean Dujardin pour les OSS 117. Parce que franchement, il est quand même brillant en aïeurie. Il y a vraiment quelque chose qui est très fort là-dessus. Après, dans les acteurs comiques qui mériteraient un César, là, j'en vois pas beaucoup.
Paul Verhoeven, je lui aurais donné un truc.
Ah oui, bien sûr. Paul Verhoeven pour Podium déjà.
Pour d'autres films. Enfin, à chaque fois, il fait toujours des prestations.
Podium, en plus, il l'a mal vécu parce que c'était vraiment lui l'immense favori. Et il raconte qu'il était prêt à se lever pour recevoir un César qu'il n'a finalement pas eu parce que c'est Mathieu Amalric qui l'a reçu à sa place. Et que, ouais, il a très très mal vécu ce moment. Mais je suis d'accord avec toi, Benoît Paul Verhoeven, qui, voilà, lui aussi, on peut
et sur cette tranche-là, à faire à la fois du Dupieux très cocasse, très absurde, etc., et faire du très sombre ailleurs.
Ouais, ou même quand José Garcia fait le coup près de Costa Gavras, c'est un petit peu son Tchao Pantin. Donc il y a ce côté-là qui est assez rigolo maintenant, en fait. Et tu te dis, peut-être qu'il serait resté cantonné à des rôles type La vérité, si je mens, Coluche n'avait pas ouvert la voie en 83.
Il n'a peut-être pas des héritiers, Coluche, mais il a laissé en tout cas un héritage. C'est peut-être la conclusion de ce thème numéro 2 consacré à l'acteur. C'est ce qui conclut parfaitement cette deuxième partie. On s'en va sans plus tarder vers notre troisième et dernier thème de l'émission. De la BO de Scarface, de Brian De Palma, film avec Al Pacino, Michelle Pfeiffer, F. Murray Abraham, Steven Bauer, et qui raconte, on va le rappeler, on le sait, on la connaît l'histoire, mais on le rappelle, l'histoire en 80 de Tony Montana qui va profiter d'une amnistie du gouvernement cubain pour retourner en Floride. Ce gangster ambitieux et sans scrupules va élaborer un plan pour éliminer un caïd de la pègre et prendre la place qu'il occupait sur le marché de la drogue. C'est ça l'histoire de Scarface, qui est un remake du film d'Howard Hawks et Richard Rawson de 1932 avec Paul Meany, qui était à l'époque un classique du film de gangster, que je conseille d'ailleurs aux auditeurs de regarder. C'est toujours intéressant de voir le film original Scarface de Howard Hawks de 1932 et celui de Brian De Palma. On en parlait un peu hors micro, mais tu te souviens, toi, de ta première vision de Scarface et de, justement, à quel point ça a dénoté avec le film que tu as revu récemment.
Ouais, je sais que c'est un film que j'ai vu il y a une vingtaine d'années, au moment des 20 ans, je crois, de Scarface. Ouais. Quand j'étais en fac, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de voir ce film-là. Et puis en plus, j'entendais beaucoup de reportages sur la fascination pour Scarface, Al Pacino, genre même dans les banlieues, la culture rap, hip-hop, en fait, comment ils en avaient fait une icône. Donc je me suis dit, bah ouais, faut le voir. Donc du coup, j'avais trouvé que c'était impressionnant parce que, forcément, enfin, un film de gangster, tu t'attends pas forcément à un truc aussi extrême. Enfin, genre, le fait que la chanson s'appelle Push It to the Limit, c'est vraiment un résumé du film, hein, c'est qu'il pousse tous les curseurs. Parce qu'avant, les gangsters, il y avait un côté très classe, très la famille, très genre les codes d'honneur.
Très sophistiqué, très machin, là, c'est un peu clinquant. Et...
Bah, Scarface, c'est un peu un gros beauf, hein, si on veut résumer clairement. vraiment, c'est...
Tu dis les termes.
On part vraiment dans un extrême. Et là, quand je l'ai revu récemment, je me suis rendu compte à quel point c'était un film très bien écrit. Mm-hmm. Parce que c'est un film qui est vraiment sur une corde raide et très mince entre... Bah, la glorification et la fascination pour le personnage, et te montrer que bah non, ce personnage en fait est paranoïaque, il est imbuvable, il est odieux avec tout le monde, il est misogyne,
il est un peu ridicule aussi,
il est très ridicule, ouais. En plus c'est ça, il y a même une scène en fait où ils sont au resto, tu sens que lui est bourré en fait, c'est que vraiment il a la tête penché. Tu sens qu'en plus il commence à s'éloigner un peu de tout le monde. Ouais. Enfin, à la fin, quand il est dans sa montagne de coke, là, qui se fait des lignes, des pistes rouges, vraiment, que le mec se croit intouchable. Bah, il est ridicule en fait, c'est ça. Mmh. Et pourtant, en fait, c'est un personnage qui fascine, que des gens vénèrent au premier degré. Et je me demande si l'une des raisons de ça, et du fait que ce soit bien écrit, que ce soit malin, en fait, c'est que donc, le film a été écrit par Oliver Stone, qu'on citait tout à l'heure, parce qu'il écrit Né un 4 juillet, et c'est à une époque où lui se battait avec une dépendance à l'héroïne. Donc tu peux peut-être comprendre cette espèce de dichotomie, le côté, bah, t'es à la fois attiré par ce trafiquant de drogue et en même temps t'es dégoûté,
ouais,
parce que je pense qu'en fait c'était le quotidien d'Oliver Stone à cette époque-là.
Je me déteste, je m'idolâtre, voilà. Je me déteste.
Et en même temps, bah, la drogue, j'en ai besoin à l'heure actuelle. Alors le film, c'est plus de la cocaïne. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça en fait, et c'est moi je trouve que c'est un modèle paradoxalement de subtilité dans cette ligne
dans sa
de
polarisation véritable, voilà.
Parce que effectivement dans le film en soi il est pas subtil, genre ça hurle dans tous les sens, c'est très violent, c'est très grossier, c'est-à-dire que le jusqu'ici le mot fuck on l'utilisait pas autant que ça. Alors depuis il y a eu les Pulp Fiction, les Affranchis, le Loup de
Maintenant
Street.
Ça fait partie du décor, il y a The Boys qui
ouais,
est sorti.
Voilà, maintenant
ça.
C'est un peu un concours à celui qui en dira
Succession,
le plus.
Succession, fuck
off. Non mais c'est exactement ça. Mais à l'époque, et c'est ce qui a choqué beaucoup de monde, c'était assez peu courant. Donc c'est un film qui est à la fois très grandiloquent et en même temps très, très malin.
C'est vrai que moi je l'ai découvert aussi, je l'ai découvert pour préparer l'émission, je n'avais jamais vu Scarface de ma vie, de Brian De Palma, et c'est vrai que je pense que si je l'avais découvert quand j'avais 15 ans, on en a parlé au micro, si je l'avais découvert quand j'avais 15 ans, j'aurais sans doute idolâtré Al Pacino et ce personnage de Scarface, mais là le fait que je sois plus âgé, ça me fait voir le film un peu différemment, parce qu'il y a quand même cette subtilité que, tu te parles, on parle de finesse d'écriture, il y a quand même ces scènes un petit peu de décalage où Brian De Palma va laisser 5 secondes de plus sur un plan, va laisser faire un petit montage sur le regard de quelqu'un qui est un peu gêné, va surtout utiliser, on va en parler, mais Michelle Pfeiffer en personnage pivot sur pas mal de choses, que Michelle Pfeiffer dans ce film-là est une espèce d'objets filmiques à part entière, puisque c'est donc la femme du caïd que Al Pacino veut descendre, puis après elle va devenir la partenaire, la compagne, la femme de Pacino, de Scarface. Je pense que Brian De Palma la filme comme un objet filmique à part entière, dans le sens où c'est Michelle Pfeiffer qui a le corps qu'elle a, qui est donc magnifique, sublime, qui a des robes et des costumes toujours plus fous les uns que les autres, et qui est toujours filmée comme avec sa coupe de cheveux, ses lunettes de soleil et sa stature, ouais, comme quasiment un tableau. Okay. Et elle est là, élancée, comme carrément un jet de peinture, très droit, très énergique, très dynamique. Et à côté, il y a ce petit boudin qui est Al Pacino, tout énergique. Et il met les deux côte à côte, et c'est une aberration visuelle. Et tu vois elle et lui côte à côte. Et je trouve que Brian De Palma, il la filme vraiment avec un regard de dire ouais, je vais filmer ça comme une œuvre d'art, et à côté il y a Al Pacino qui s'excite, et c'est très drôle de voir les deux côte à côte.
Moi je pense qu'il y a l'une des clés de lecture du film, en fait elle est dans la toute première scène d'Al Pacino, en fait cette espèce d'interrogatoire qui passe pour savoir s'il peut entrer sur le territoire américain, et il dit ouais, moi j'ai appris à parler anglais en regardant les films de Humphrey Bogart et James Cagney. Tu t'attends presque à ce qu'il cite Paul Muni d'ailleurs du Scarface original. Donc en fait si tu vas au-delà de ça, tu te dis, en fait, le mec a appris l'anglais en regardant majoritairement des films de gangsters. Parce que, bon, Humphrey Bogart, c'était plus des films noirs de détectives, mais James Cagney, L'ennemi public, c'est l'un des plus grands films de gangsters des années 30.
Donc, ces icônes, c'est...
Donc, je pense qu'en fait, il a découvert la langue anglaise et un peu sa vision du rêve américain, en fait, ça vient des films de gangsters. Donc, moi, je vois dans Scarface un mec qui joue au gangster, qui vraiment, il joue au caïd, parce que oui, bon, bah, c'est Al Pacino, il n'est pas très grand. Mais il joue au caïd, vraiment, il croit qu'il peut tout avoir. C'est-à-dire que Michelle Pfeiffer, au bout de 3 scènes, il dit « Ouais, j'ai envie d'avoir des enfants avec toi », alors qu'elle est encore avec l'autre caïd, hein, déjà, donc, qui potentiellement peut le buter.
Quoi, pardon ? Non,
non, c'est ça. Alors, non. C'est ça. Et c'est, en plus, il a cette vision du rêve américain. C'est-à-dire que lui, il veut absolument des gosses, alors que elle, non. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment l'histoire d'un... Tu sais, c'est un peu, c'est limite, he's no good, quoi. Il se rêve caïd, et du coup, il a cette possibilité, parce qu'il est ambitieux, cet engagement, enfin, vraiment, il va à fond les choses. Et je me demande si le fait de choisir Al Pacino pour jouer un Américain d'origine cubaine, alors que lui est d'origine italienne...
Italo-américain.
Est-ce que ça participe pas à ça ? Parce que quand tu regardes le film avec une espèce de recul, t'as un peu l'impression de voir José Garcia qui imite De Niro... mais avec l'accent
le
cubain.
Mac
non, c'est ça, c'est qu'il y a un truc
Scarface
comme ça.
Scarface, c'est à la fois Is No Good et José Garcia.
Non, mais c'est exactement ça. Alors, merci, du coup, je vous encourage à visualiser ça, parce que c'est assez amusant. Mais parce qu'aujourd'hui, Al Pacino serait casté pour ce rôle-là, bah, plein de gens diraient pourquoi il n'est pas cubain, mais je me demande si c'est pas fait exprès d'avoir un mec en fait qui joue un rôle jusqu'au bout en fait.
Mais c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu burlesque et un peu absurde. Et c'est vrai que le film à l'époque a quand même été plutôt retenu de manière reçu de manière mitigée, puisque déjà bon, il n'y a pas beaucoup marché au box-office, les critiques sont très mitigées, et en fait il va gagner un statut culte, mais vraiment avec le temps, avec les années, surtout aussi parce que ben, quand on regarde derrière la caméra, on a quand même Brian De Palma qui vient de sortir de Blowout, qui vient de sortir de Pulsion, qui fait Scarface, qui va faire quelques années plus tard Mission Impossible. Tout est lié finalement.
Tom Cruise
il y a Oliver Stone à l'écriture, il y a Al Pacino évidemment, il y a Giorgio Moroder à la musique. Ouais. Amigo, c'est une espèce de concentré d'années 80 et on secoue. Pacino, lui, il sort de Cruising de Friedkin, mais il était après les années 70 où il a bien tourné, il est quand même sur quelques années un peu mineures avant de ressurgir comme ça avec Scarface. Mais c'est vrai que c'est un film qui aujourd'hui est une évidence, qu'on parle de film de gangster, mais qui à l'époque était... a été mal reçu. Alors le film de gangster, justement, pour le décrire, c'est un sous-genre du film policier avec ce point de vue du criminel sur les choses, et qui est un genre qui existe depuis basiquement le début du cinéma. On a donc le petit César de Melvin Leroy, on a beaucoup de films de Raoul Walsh, notamment La Grande Évasion avec Humphrey Bogart, on a du côté français Pépé le Moko, on a L'Ultime Razzia de Kubrick, on a Bonnie and Clyde, Le Samouraï avec Alain Delon, Le Clan des Siciliens bien sûr. Et Scarface en 83 va offrir une autre facette de ce genre de film de gangster. Justement, comment Scarface et Brian De Palma a-t-il réinventé, selon toi, le film de gangster, Max?
Bah, il l'a poussé vraiment dans les extrêmes. C'est que, tu vois, si tu veux un spectre un peu du film de gangster américain, tu pourrais dire qu'il y a d'un côté Le Parrain, de l'autre côté, à l'autre bout, Scarface, et au milieu, Le Chaînon Manquant, c'est un peu Les Affranchis. Qui reste dans les codes d'honneur de la mafia, le côté familial.
Donc Le Parrain 72, Scarface 83, Les Affranchis 80.
Début années 90, en fait, ouais. Tous les 10 ans, finalement, t'as un peu une espèce de renouveau de film de gangster. Alors moi, je pense que c'est vraiment en fait, dans son côté flamboyant, son côté grandiloquent, son côté ultra violent. Parce que
c'est très sanglant. Ouais.
C'est très, très, très sanglant, ouais. Ouais, en fait. Et on parle de Brian De Palma, mais au début, parce que Al Pacino coproduit le film. Il l'avait proposé à Sidney Lumet, avec qui il avait fait beaucoup de films, dont Serpico, Un après-midi de chien. Tu parlais de ces années 70. Bah, Sidney Lumet a grandement participé au boom d'Al Pacino dans les années 70. Et donc, il avait proposé le projet, mais en fait, Sidney Lumet trouvait que le film était beaucoup trop violent. Donc déjà, avant même que ça commence, en fait, c'est là qu'il y a eu ce point saillant, c'est que la violence a été l'un des
points de fabrication de ce film-là qui a fait basculer le film. Ça aurait pu être un film de Sidney Lumet qui aurait donné autre chose, et là ça fait un film de Brian De Palma.
Il aurait été beaucoup plus politique qu'il ne l'est déjà, même si bon, bah, avec Oliver Stone, tu ressens le côté politique, le côté la lutte contre la drogue aux États-Unis, et en même temps, bon, bah, c'est les États-Unis qui sont responsables de l'importation de la majorité de la drogue sur le sol américain, des choses comme ça. Mais non, je pense que c'est ça vraiment, c'est à la fois d'en faire un film qui encapsule l'espèce de mauvais goût associé aux années 80, tout en vraiment faisant un film qui, en termes de violence, en termes de... va beaucoup plus loin que ce qui a été fait avant, et pour une raison toute simple, c'est qu'en 1932, le film original, lui, il tombe sous le coup du code Hays, qui régit un petit peu tout ce qui est la moralité, la violence, la sexualité dans les films, et c'est pour ça que le personnage de Scarface meurt à la fin, parce que c'était pas forcément prévu, en fait, c'est qu'on veut pas que tu glorifies un personnage aussi amoral. Et là, bon, bah,
il est là, pas, on a un peu plus libéré, quoi.
Ouais, voilà, il est pas autant glorifié qu'on pourrait le croire, comme on disait, mais au moins il y a pas ces barrières de sexualité, de violence, de rapport à la drogue. Vraiment, c'est un film qui presque n'a zéro limite.
Moi, je compléterais ce que tu dis sur le film de gangster et l'apport de Scarface, parce que que Scarface a aussi amené dans ce genre du film de gangster, c'est aussi une révolution esthétique, de l'esthétique du film de gangster. C'est vrai qu'avant Scarface, on avait peut-être cette idée que le film de gangster, c'était ses chapeaux marrons, c'était les gens en costume, c'était le temps gris new-yorkais, c'était ces murs de briques et les allées, et puis des gens qui se tirent dessus, voilà, avec des voitures, des Ford T sur les routes de Los Angeles au ralenti. Scarface arrive avec une musique rythmée, du soleil, des montages, des plages et des filles dénudées, et ça te fait basculer le film de gangster avec dans quelque chose de très solaire et très pop et très coloré et très clipesque véritablement,
bah oui.
Ce qui du coup change et qui maintenant est une évidence parce qu'on a GTA et on a Vice City et on a, enfin non, c'est, ça ne dérange plus personne, mais c'est vrai qu'à l'époque on a quand même le parrain avec des gens qui parlent dans des boudoirs, et là on a Scarface qui elle se lève, les pépés, les meufs qui blouent, et voilà, et, ouais. Et on est juste avant Miami Vice et avant ça. Donc en fait, peut-être que la révolution du film de gangster, elle est surtout esthétique, et elle explose comme ça les horizons en disant, bah regardez, on peut faire du gangstering entre guillemets, mais avec d'autres horizons visuels. Et surtout, tu l'as dit, il y a cette dimension très politique et internationale qu'on n'avait pas trop avant, qui était très, bah tiens, on va régler nos affaires peut-être aux États-Unis et tout. Et là, c'est vrai qu'il y a une dimension. Alors, écriture d'Oliver Stone oblige, hein, d'avoir cette dimension de dire, bah tiens, par des coups de téléphone, par cet intermédiaire en Amérique du Sud, il y a cette dimension très politique de, bah regardez, les États-Unis, c'est peut-être eux aussi ceux qui amènent toute cette drogue. Dans le pays, et donc peut-être que Scarface est à la fois et un outil et une victime de quelque chose qu'il dépasse, ouais. Donc il y a vraiment ce sous-texte aussi dans Scarface, c'est pas juste le personnage, c'est aussi une histoire dénonciation très
politique. Et ça rejoint ce qu'on disait sur la vie privée d'Oliver Stone, qui était, toi quand tu disais, à la fois outil et victime de ce trafic de drogue, bah Oliver Stone littéralement à l'époque était à la fois un outil et une victime de ce trafic de drogue, puisque il se battait contre son addiction à l'héroïne.
Tout est lié finalement. On l'a dit, Pacino et Scarface sont des figures idolâtrées. Elles ont, on l'a vu, ça a été repris dans le milieu hip-hop, chez les jeunes, etc. Une icône fantasmée beaucoup. Est-ce que le film a été mal compris par une génération? Parce que quand on regarde le film, oui, effectivement, Scarface est impressionnant le personnage, mais il est aussi très ridicule, et on oublie qu'à la fin, bah, ça se passe pas très bien.
Non, absolument pas.
Pourquoi il a été mal compris? Pourquoi est-ce que les gens prennent ce qui les intéresse et
Je me souviens, dans le.
C'est comme le parrain finalement.
Ouais, je pense que comme l'un des reportages que j'ai entendu il y a 20 ans, donc pour la ressortie en vidéo du film, justement, ils allaient dans les banlieues et ils interrogeaient des gens, et en fait, j'entendais quelqu'un qui disait, bah non, mais lui, c'est quelqu'un qui a réussi à avoir le respect. Et tu dis oui, dans un certain sens, mais bon, il a eu aussi la parano, la misogynie, l'ultra-violence, il a eu quand même beaucoup de tard avec. J'ai l'impression que déjà, bon, il y a la culture rap, hip-hop qui l'ont iconisé en proposant des samples de dialogue du film, des samples de la BO, donc forcément, bah, t'en retiens surtout les...
Ça en fait un objet culturel.
C'est ça, ça en fait une star de la culture rap et hip-hop. Et après, c'est vrai que quand tu regardes du point de vue des banlieues, bah, Scarface, c'est l'histoire d'un immigré qui part de rien et qui arrive au sommet par lui-même. Donc forcément, c'est vraiment une histoire de réussite.
Donc ça marche très très fort. Ça
marche très très fort. Après, c'est sûr que quand tu regardes la façon dont il s'y prend et le milieu par lequel il passe, tu te dis, bah ouais, mais bon, c'est pas trop un exemple non plus. Mais c'est un peu cette histoire du mec qui ne devait pas réussir et qui finalement est arrivé au sommet. Tout ce truc-là, je pense, qui fait que Scarface est un objet de fascination. C'est qu'en fait, t'as envie de partir du bas de l'échelle et d'arriver très vite en haut.
Mais... T'as juste pas envie d'avoir le dernier quart du film, quoi.
Non, voilà, c'est ça. C'est, tu dis, à un moment... Parce que, en fait, à partir du moment où il y a ce montage en fait, qui est devenu à la fois...
La Fushi to the limit.
Voilà, c'est ça. Qui est devenu presque une parodie à lui tout seul. Quand tu le revois aujourd'hui, tu rigoles parce que tu...
Le cigare, les lunettes.
Ouais, avec le mec qui rigole au téléphone au début, tu te dis, mais en fait, t'as l'impression que c'est ironique aussi. Et ça, c'est vraiment le moment central du film. Et après, c'est vraiment la chute.
Pour nous, c'est une icône, et j'imagine que ça reste encore. Mais après, c'est très générationnel. Années 80, années 90, j'imagine que la nouvelle génération qui sont dans les années 2000, ou même fin 90-2000, Scarface, bah, ça a plus de 20 ans, plus de 30 ans, plus de 40 ans. Ça peut paraître un petit peu lointain, même si tu t'en entends parler, tu vois les images de Pacino, tu vois ces reprises sur
les réseaux,
tout ça. Donc tu vois Vice City qui aussi l'évoque aussi beaucoup, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu as d'autres nouvelles figures qui viennent remplacer comme ça Scarface dans l'imaginaire collectif et qui jouent ce même rôle de fantasme du gangster. Moi, je pense à Cillian Murphy dans Peaky Blinders, qui est quasiment la même figure, sauf que tu changes le fond.
C'est avec encore un côté esthétique.
C'est plus Miami,
prononcé.
Mais c'est Birmingham.
Ouais.
C'est la même chose. Tu peux avoir Walter White aussi. Qui est le remplaçant de Scarface aujourd'hui dans les imaginaires collectifs du film de gangster, selon toi?
Bah, dans le film, je sais pas si dans le film de gangster, il y en a beaucoup. J'ai l'impression que ça se trouve plus du côté des séries. Alors tu vois que ça fascine toujours autant parce qu'il y a le film Rheingold de Fatih Akin qui est sorti fin juin dans les salles, qui est sur un truand et dealer de drogue qui est devenu une star du rap en Allemagne. qu'en plus, vraiment, c'est tout pour la génération Scarface, hein, clairement. Et ça a été un énorme carton en Allemagne. Je sais pas comment ça va
ça
marcher en France.
Ça fascine toujours autant, quoi.
Tu vois qu'il y a quand même il y a quand même de la fascination. Il y avait American Gangster de Ridley Scott en 2007. Mais j'ai l'impression que les gangsters, au-delà de Peaky Blinders et de Walter White, même si tu te dis... Est-ce que c'est vraiment un gangster ou pas?
Le Joker, ouais, cette dimension politique. Hein. On a vu Heath Ledger en 2008 qui a été effectivement aussi ce côté pour toute une génération de spectateurs, surtout masculins, surtout d'une certaine tranche idéologique. Ouais. Ça a été une icône. Ouais. Mais même Phoenix, le Joaquin Phoenix, ça a fait $1 milliard.
Jared Leto, beaucoup moins. Étonnamment. Les gens se sont dit non, mais finalement, le Joker, pas tant que ça.
Mais tu vois, Joker avec Joaquin Phoenix fait $1 milliard au box-office. Ouais. Avec cette image imprégnée de Taxi Driver de Scorsese, avec cette image de seul contre tous, de cet homme esselé, de cette icône, je vais y arriver malgré les embûches.
Les personnages en fait un peu amoureux qui fascinent les gens sont plus dans les séries, et c'est même pas forcément que des gangsters. Je pense notamment à tous ces flics au début des années 2000, les Vic Mackey dans The Shield, Jack Bauer, en fait, c'est-à-dire qui étaient entre le bien et le mal pour un but assez noble, on va dire, mais bon, qui faisaient des choses bizarres, ou même Dexter qui est quand même un tueur en série, mais qui travaille pour la police de Los Angeles, de Miami. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui aussi, ce qui fascine un peu plus que les gangsters de l'époque de Scarface, c'est les tueurs en série. C'est que tu vois la série Dahmer, par exemple. Voilà, exactement. Enfin, tu te dis, il y a une espèce d'iconisation de gens qui, premier degré, étaient fans de Dahmer. Tu vas envie de dire.
Est-ce que c'est les tueurs en série sont les nouveaux gangsters? Est-ce que Dahmer est le nouveau Scarface?
Ce que je me demande, parce qu'en fait, c'est vraiment, on te raconte une histoire, en plus, souvent des histoires vraies. Parce que Scarface, en fait, c'est pas une histoire vraie à proprement parler, mais c'est inspiré de diverses choses. Enfin, le premier, en fait, s'inspirait de Al Capone. On te dit, moi, j'ai l'impression, en fait, en y réfléchissant, que quand tu vois aujourd'hui ce qui fascine, au-delà de Peaky Blinders, parce que c'est vrai que ça a été un vrai phénomène esthétique et culturel, j'ai l'impression que les tueurs en série, en fait, il y a quelque chose. Quand tu vois n'importe quelle série ou série documentaire sur Netflix, qui a un carton sur des histoires mais sordides, où tu te dis, tu te sens sale après avoir vu un épisode.
Les gens aiment bien le sordide, finalement.
Mais non, je me dis que c'est peut-être ça, en fait. C'est qu'on a besoin d'extérioriser des fois une part sombre qu'on aurait, en fait. On la met dans ces personnages-là, en fait. On s'investit dans ces personnages-là en se disant, moi ça va, je suis pas comme ça, je suis content, mais c'est ton petit côté un peu interdit. On parlait de risky business, il y a un peu ça aussi.
Le goût de l'interdit, ça a été Scarface en 83, c'est peut-être aujourd'hui effectivement les tueurs en série. En tout cas, c'est une piste de réflexion, je vous laisse avec ça, cher auditeur. Voilà qui conclut parfaitement notre troisième et dernier thème de cette émission. Et avant de vous quitter, on va pas se quitter avant de vous passer nos quelques petites recommandations de cette année 1983. Comme d'habitude, on ne se quitte pas sans vous passer nos petits coups de cœur de cette année 1983. On a parlé de plein de choses, de Risky Business de Tom Cruise, de Coluche avec Chao Pantin, de Scarface, mais il y avait plein d'autres films. Et on a aussi des choses à vous recommander. Toi, Maximilien, tu avais quelques petits coups de cœur à recommander aux auditeurs avant de nous quitter?
Oui, sans surprise pour ceux qui écoutent l'émission depuis le début. Évidemment, 83, c'était le retour du Jedi, donc qui est à l'époque le sixième et dernier épisode de la saga Star Wars, qui a commencé avec l'épisode 4, ce que d'ailleurs je ne comprenais pas étant petit.
Si je me dis, t'as fait 6, 4, 5, t'as pas compris?
Alors déjà, j'ai fait ça comme ça. Donc là, j'ai encore moins compris le côté genre, on sait que c'est son père. Moi, je le savais depuis le début. Donc ça, c'est très étrange. Hein. Mais c'est le côté où on te dit, il y a 3 films, mais c'est les épisodes 4, 5 et 6. Tu fais, il manque des trucs avant. Et donc, moi, j'ai vécu pendant de nombreuses années avec la saga Star Wars est terminée. T'en verras jamais d'autres, même si ça revenait régulièrement. Donc au moment où ça s'est...
Si tu savais.
Au moment où ça a commencé, c'est vrai que les gens qui écoutent aujourd'hui, quand on leur dit on restait pendant 10 ans sans Star Wars, eux aujourd'hui, ils restent 2 mois sans Star Wars. Entre les séries et les films, tu sais qu'il
va y avoir 3 films en 18 mois.
C'est exactement ça. Et c'est un peu ce qu'on a perdu, je pense, clairement, avec les Star Wars récents. C'est que c'était un événement. C'est que pendant des années, tu savais plus, même après l'épisode 3, en 2005, tu te dis, là c'est fini, il pourra plus jamais rien avoir, même s'il y a une espèce de serpent de mer d'une série live qui a fini par voir le jour différemment. Mais du coup, moi quand je découvre le retour du Jedi, donc je dois avoir 5-6 ans, et je suis surtout marqué par cette scène au-dessus bah, de la fosse du Sarlacc, donc espèce de grand monstre qui te digère pendant 1000 ans, sauf si tu t'appelles Boba Fett.
Et qu'il y a une série qui arrive.
Et qu'il y a une série et que tu te dis c'est quand même dommage de l'avoir fait mourir comme ça bêtement.
Ouais.
Mais voilà, donc le côté où Luke Skywalker bah, va être sacrifié, sauf que il saute, il s'accroche au plongeoir, il fait un salto. Moi, cette scène-là étant petit, elle m'a fait rêver. Je me dis, mais je vois comment ça a été fait. Moi, je veux un sabre laser, je veux faire des films comme ça. Enfin, donc vraiment, c'est. Je pense que ouais, ma cinéphilie, en fait, est née avec ça. C'est pas le premier film que j'ai vu, ça, j'en suis sûr. Mais c'est la première scène dont je me souviens avec quelques trucs de Superman 2, mais qui m'a pas aussi durablement marqué.
Donc après, le retour du Jedi, du coup.
Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup ce film parce que c'est vraiment un pur film d'aventure, hein, du pur serial. Mais c'est tellement un film en fait qui m'est personnel.
Très bien. Est-ce que tu avais un autre coup de cœur à nous passer?
Oui, dans un autre registre, tu l'as mentionné un peu plus tôt. C'était Papy fait de la résistance.
Ah oui.
Parce que voilà, comme tu disais, j'adore la liqueur de l'échalote. Enfin, j'adore la scène de liqueur d'échalote des bronzés fonds du ski, pas ce qu'il y a dedans. Et oui, le Splendide aussi, c'est parmi mes grandes références en termes d'humour. Et Papy fait de la résistance, c'est un de leurs films que j'aime beaucoup, mais vraiment, ça s'est fait sur la durée. Parce que avant, pour moi, c'était vraiment Les Bronzés font du ski, Pas mal une ordure. Et Papy fait de la résistance, que j'ai l'impression qu'il était moins connu, moins vu. Et en fait, tu te dis, c'est un film qui est brillant et qui, en plus, est un peu le Avengers Endgame de la comédie française de l'époque.
C'est Villeray avec.
Ouais, il y a Villeray, il y a Michel Galabru, il y a Jacqueline Maillan, il y a tout le Splendide, même Michel Blanc qui passe dire bonjour dans une scène. T'as Jean-Yann aussi, qui était vraiment un cinéma beaucoup plus politique dans la comédie à l'époque. Devait y avoir Louis de Funès, qui malheureusement est décédé en janvier 83, et le film lui est dédié.
On avait parlé avec Matteo Maestrachi justement de cette possibilité d'une rencontre Splendide et de Funès, et de cette rencontre de deux générations du monde.
Mais voilà, donc c'est un film qui est vraiment très drôle, qui va plus sur le côté film d'aventure, film de guerre.
Donc une double reco, Le Retour du Jedi, Papy fait de la résistance, c'est un sacré double programme.
Ce sont deux films qui parlent de guerre d'une manière ou d'une autre. Voilà. Il y en a un qui est beaucoup plus rigolo et un autre qui a beaucoup plus d'ours en peluche. Je vous laisse deviner lequel.
Voilà, exactement. Merci beaucoup pour cette double reco. Avant de vous quitter, je vais aller de mon petit coup de cœur également de cette année 83 très rapidement pour finir l'émission. De mon côté, mon petit coup de cœur pour 83, on l'a pas évoqué, on en a pas parlé, ce sera Tendre Passion de James L. Brooks avec Shirley MacLaine, Jack Nicholson, Debra Winger et Jeff Daniels. Alors, qui raconte une histoire d'une relation entre la vie finalement d'une relation entre une fille et sa mère et la vie de cette famille avec cette veuve et sa fille qui va partir vivre avec son mari loin de tout ça. Donc c'est un film du réalisateur James L. Brooks. James L. Brooks, pour vous remettre un petit peu de contexte, c'est l'homme derrière Pour le pire et pour le meilleur et Comment savoir en 2010, qui est donc le dernier film de Nicholson. Donc c'est trois films avec Nicholson, et déjà Tendre Passion donne un rôle comme ça formidable à Nicholson, qui est cette espèce d'astronaute tout le temps sous ce voisin de Shirley MacLaine qui en fait des caisses et qui est formidable. Et Tendre Passion, pourquoi je vous le recommande? Parce que c'est un grand film d'acteur, avec ce casting, vous l'avez vu, phénoménal. C'est un film sur une relation assez fine d'une mère et de sa fille, sur la vie, sur ses soubresauts, sur les drames et ceux qui se trouvent parfois au milieu de ceci. C'est à la fois dramatique, comique, un peu doux amer. Et alors oui, on pourra prêcher que c'est un peu tire-larme à la fin, mais on lui pardonne parce que le film est assez formidable. Et moi, ça a été une belle découverte pour préparer l'émission. Donc c'est pour ça que je vous le conseille, Tendre Passion de James L. Brooks, c'est mon coup de cœur pour 1983. Voilà qui conclut cette émission d'Année Lumière consacrée donc à 83 et cette cinquième saison d'Année Lumière, une saison remplie de millésimes et d'invités passionnants. J'espère que vous avez pris, chers auditeurs, autant de plaisir à écouter ces émissions que moi j'ai eu à les produire et à les animer. Merci à mon invité Maximilien Pierrette. Merci Max.
Merci à toi surtout.
Merci d'avoir partagé ton cinéma avec nous.
C'était grand plaisir.
Merci également aux indéboulonnables partenaires de l'émission, le formidable magazine Cinématiseur et évidemment Tsugi Radio, où on enregistre dans leur studio de la Villette à Paris. Le dernier remerciement de cette émission ira à vous, chers auditeurs, pour votre soutien indéfectible et jamais diminué. N'oubliez pas de partager l'épisode et de suivre le compte Twitter d'Année Lumière pour les toutes dernières infos. En attendant, je vous dis à bientôt et vous souhaite un très bel été, évidemment plein de films et de cinéma. Salut à tous !